un avion sans air. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour serre.
Radio.
Radio. Toute la nuit.
Sans elle, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 6. Vers le premier plan de fréquence, Radio Panique devient une radio à deux vitesses.
Extrait du journal Le Soir, 20-21 juillet 1985, rubrique Boulevard des médias.
Il s'est passé un événement étonnant au début du mois de juillet. L'octroi à 5 radios d'expression bruxelloise d'une fréquence d'émission par la RTT. Ces fréquences ne sont pas celles sur lesquelles ces radios émettaient jusqu'ici, pour autant qu'elles émettent. L'une d'entre elles avait cessé ses activités. Ces 5 radios locales comptent parmi les 9 qui avaient été reconnues, à Bruxelles, par la communauté française il y a un an et demi, reconnaissance renouvelable à la fin décembre de cette année-ci.
Juillet 1985. Les radios commerciales occupent toute la bande FM. C'est illégal car elles ne sont pas reconnues, mais elles gagnent des points. La commission chargée de réviser le décret de 1981 recommande leur reconnaissance et l'octroi à certaines de fortes puissances. La publicité vient juste d'être légalisée, du moins pour les radios reconnues. Quelle mouche pique la RTT de soudain attribuer des fréquences aux radios non commerciales après les avoir laissées lanterner pendant plus d'un an et demi ? Événement étonnant, Le Soir a raison. Peut-être le vidéo « Il n'y a plus de rumba dans l'air » a-t-il quelque chose à voir avec cette décision. S'agit-il d'une manœuvre ? Les fréquences sont attribuées comme si personne d'autre n'émettait dans les terres bruxellois. Provocation pour précipiter leur reconnaissance ? C'est possible. La régionale bruxelloise de l'Allo tient une conférence de presse le 16 juillet 1985. Extrait.
16 mois après la reconnaissance de 9 radios locales bruxelloises par l'exécutif de la communauté française, 5 d'entre elles, toutes membres de la ELO, ont reçu une lettre de la Régie des télégraphes et téléphones datée du 2 juillet 1985, leur permettant de détenir un émetteur et de l'utiliser exclusivement sur la fréquence qui leur est attribuée. Radio Panique, Saint-Josse 101.8. Radio Air Libre, Saint-Gilles, 104.1. Radios alternatives, XL 105.4, Radio 104, JET 106.8, Radio Marolles, Bruxelles 107.2.
L'ALO se plaint des conditions techniques draconiennes de la RTT, toujours l'interdiction de dépasser les 100 watts, mais elle reconnaît aussi les avantages résultant de la décision. Il y a désormais une base pour poursuivre et interdire les radios non reconnues qui émettent sans frein à leur puissance.
Si la RTT laisse les radios sans fréquence attitrées émettre dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, on se trouverait dans une situation où les émissions des radios légales ressembleraient à un murmure baignant dans le vacarme tonitruant de radios encore illégales.
Et c'est bien ce qui va se passer.
Comme un avion sans air.
Extrait du journal de bord de Radio Panique, les noces d'or de grand-mère.
15 décembre 85, courant d'air.
Mer calme, ciel dégagé, légère brise. On est un peu triste que les seuls coups de téléphone que l'on reçoit soient destinés à d'autres émissions.
20 décembre 85, les innommables.
Bonne année, joyeux Noël, rien de spécial à dire. Ah si, il y a quelque chose de spécial à dire. On a eu un copain, un coup de fil d'un type qui répliquera vendredi prochain avec des copains et de la bière.
22 décembre 85, courant d'air.
Le WC semble bouché.
19 janvier 86, courant d'air.
Difficile de boire quelque chose sans décapsuleur.
9 février 86, courant d'air.
Le chauffage était allumé quand nous sommes arrivés. C'était bien pour nous, c'est un peu plus emmerdant pour la caisse.
14 février 86, les innommables.
Bonjour, nous sommes arrivés à 19h comme prévu, mais Rapace avait oublié les clés chez lui. Alors il a dû aller les chercher en courant. Oui, il est allé chercher 4 bières à 20 francs en pièces. C'est cher. Enfin, on a passé plein de disques très amusants, il n'y a pas de problème. Sabine était très très en forme et n'arrêtait pas de rire, comme d'habitude. Il faut savoir que Michel était parti en Autriche et que c'est son petit ami. Maintenant, c'est Cradox qui est à la radio. Il s'est planté deux fois et on a bien ri de lui. Lui avait bien ri de moi quand je m'étais planté. À part ça, tout va bien. Demain, on fête les 50 ans de mariage de mon grand-père et de ma grand-mère, qui fêtent leurs 50 ans de ménage. On a acheté un grand gâteau, mais avec un, c'était pas assez grand. Alors, on a dû en acheter deux. Oui, ce soir, je vais devoir partir plus tôt parce que je dois préparer la table chez moi. Mais ne vous en faites pas, je serai remplacé. On a donc continué l'émission dans la joie et la gaieté. Le rapace était toujours aussi ennuyant. Il a apporté un disque des Golpe Bachos. Nathalie n'arrête pas de fumer, elle a des crêpes et des bagueries. Dehors, il fait froid. Génial. Demain, je vois mon cousin Pascal. À cette idée, je suis très joyeuse. Et de plus, dimanche, au grand jour, Michel Pollux revient d'Autriche. Quel chouette week-end, hein. Le plus beau jour de ma vie, je crois. À part ça, tout se passe bien, on rigole bien et on est tous très joyeux.
16 février 86, courant d'air.
Merci aux innommables pour leur nouvelle fraîche et réjouissante, Ralovli.
La première fréquence officielle de Radio Panique, un cadeau empoisonné.
La RTT attribue donc en juillet 1985 à Radio Panique la fréquence de 101,8 MHz. Merci la RTT. Le 101,8 MHz est perpétuellement brouillé par SIS, une des deux plus puissantes stations illégales, et Radio Judaïka. Tant et si bien que la désastreuse situation antérieure se perpétue. Lors d'un carrefour du colloque pour une poignée de watts, un animateur de SIS décrit la situation.
Panique s'est vu coller sur 101,8 MHz par la RTT. Pas de chance, sur 101,7 il y a SIS et Judaïka sur 102. Des radios qui sont là depuis longtemps, qui existent, qui ont un auditoire, aussi respectable que votre auditoire. Et nos auditeurs, nous ne les avons pas conquis parce que nous faisions de la pub. Nous avons des auditeurs parce qu'il y a des gens qui aiment nous écouter, qui se font plaisir à nous écouter. Et c'est la même chose pour vos radios. Ça me semble donc difficile de dire à SIS, taillez-vous, nous sommes tous lésés. SIS d'un côté, Panique de l'autre, par les carences légales.
On lui réplique qu'une fréquence non attribuée n'appartient à personne, et que c'est SIS qui lèse Panique en l'occupant illégalement. Surtout avec son énorme puissance d'émission, elle aussi illégale. SIS complote à la RTT, et jusque dans les ministères, pour qu'on change la fréquence de Panique. SIS ira jusqu'à proposer d'acheter notre changement de fréquence. Je me rappelle la visite de son directeur, M. Berenstein. Il me propose 50 000 francs en matériel de studio pour obtenir notre départ du 101,8. Je pense en moi-même que 50 000 francs, c'est bien peu pour nous corrompre. Mais je dis que nous avons reçu légalement cette fréquence et nous n'en bougerons pas. C'est au contraire SIS qui doit émigrer. Il me regarde d'un air affligé. Je peux bien imaginer ce qu'il pense de moi. Nous déposons évidemment plainte contre les deux stations qui nous brouillent, mais ni la justice ni la RTT n'interviennent. La RTT a la cruauté de nous expliquer qu'avec les changements politiques qui s'annoncent, le PRL va accéder au pouvoir, un nouveau plan de fréquence sera établi, intégrant ces deux radios, comme la plupart des autres radios commerciales. Aujourd'hui, on parlerait pour le moins de dysfonctionnement. Allons bon, c'est encore une fois au plus faible de se soumettre et d'être patient. Comme je l'ai déjà évoqué, jusqu'à l'été 1985, sur Radio Panique, lorsqu'il n'y a aucune émission en direct, il n'y a rien, sinon un grand silence, ou plutôt les intermodulations d'autres stations, puisqu'on est un émetteur. Parfois, l'un ou l'autre animateur, plutôt que d'écouter sa musique chez lui, vient à la radio et en fait profiter d'autres. Il y a toujours eu des animateurs fantômes à Radio Panique. J'en étais aussi. Heure de transgression, heure de plaisir. Dans le contexte de la guerre des ondes d'alors, le mot d'ordre des radios de la LO est « occuper coûte que coûte sa fréquence, même s'il n'y a pas d'auditeur, afin de donner l'impression que nous sommes nombreux et forts. » Que faire lorsqu'on revendique une fréquence entière et que la programmation en direct se réduit à une bonne vingtaine d'heures. Nous avons bien un magnétophone. Nous remarquons vite qu'enregistrer une bande de plusieurs heures semble au-dessus des forces de nos animateurs bénévoles. Entre-temps, j'ai pris l'habitude de compulser les catalogues de vente des magasins hi-fi de la ville et un beau jour de l'été 1985, je découvre l'existence du multilecteur de cassettes MTL-10 de Sony. C'est tout à fait neuf à l'époque, je me renseigne. J'entends dire qu'il n'est pas fiable. Peu importe, rien de comparable n'existe sur le marché. Je vois là une première solution pour lancer un programme préenregistré. J'argumente. Il sera plus facile pour les animateurs d'enregistrer une cassette de 90 minutes qu'une bande de plusieurs heures. Les séquences préenregistrées étant plus courtes, on pourra varier leur ordre et apparaître moins stéréotypé à l'auditeur. Et puis, on pourra demander aux auditeurs eux-mêmes de nous transmettre des cassettes. Les animateurs auront le plaisir d'enregistrer leurs émissions qui donneront lieu à des rediffusions. Oui, vraiment, cet appareil est un achat prioritaire. Je vais l'acheter, heureux de ma trouvaille. Je vais trouver Vincent Dozo et nous réalisons en deux soirées les 5 premières cassettes 90 minutes du non-stop. Très vite, Carlos D'Amata et Dries van der Merch en enregistreront aussi. Puis plus tard, Philippe Livreau et Stéphane Lepoutre, et d'autres encore. À partir de l'été 1985, donc, Radio Panique émet 24 heures sur 24. Et tant pis si pendant de longs mois, ce sont toujours les mêmes bandes qui passent interminablement. J'ai en effet encore surestimé la force d'engagement des animateurs. Ce n'est qu'à partir de 1987 que le programme non-stop de Radio Panique s'étoffera et déploiera toutes ses possibilités. Le MTL-10 de Sony s'avère un appareil fort léger que nous surexploitons. Lui et ses successeurs seront le sujet d'innombrables pannes d'ordre mécanique. Ils nous mettront parfois, Philippe Livreau et moi-même, qui en assurons l'entretien, dans des états proches de la crise de nerfs. N'empêche. Grâce à eux, une dimension fondamentale de Radio Panique a pu être développée, celle d'une programmation de qualité, éclectique et sinon interculturelle, du moins mondialiste.
Et on écoutait Taxi Girl sur Radio Panique.
Un mois avant l'attribution de fréquences à 5 radios d'expression bruxelloise, en juin 1985, Philippe Moureau demande au gouvernement national d'accepter un projet de plan de fréquences concocté par la commission de l'audiovisuel sous la houlette de Robert Wangermé. Ce plan est en complète contradiction avec le fameux décret de 1981. Il prévoit en effet les reconnaissances de radios commerciales et de radios régionales. On propose 3 émetteurs de 1 kW dans chacune des grandes agglomérations, Bruxelles, Liège, Charleroi, 9 émetteurs de 500 watts pour les agglomérations moyennes et des émetteurs de 160 watts pour 353 radios. Ce sont donc les socialistes, sans doute pour obtenir in fine que la RTBF puisse diffuser de la publicité commerciale, qui renient leur position initiale. Les faveurs accordées aux radios non commerciales, et jamais concrétisées dans la pratique, n'auront sans doute servi qu'à faire monter la pression pour la négociation finale concernant RTBF et RTL-TVI. Octobre 1985, élections anticipées. On se dirige vers une nouvelle majorité, libérale chrétienne à l'exécutif de la communauté française. Pierre Houtmans, directeur de Radio Contact, du GRIB, et président du Conseil des radios locales, avec la bénédiction des représentants de l'ALO, piaffe d'impatience. Son heure arrive. Dans la lanterne du 18 novembre 1985, page 2, il commente l'accord qui vient d'intervenir entre le PRL et le PSC.
Qu'en retenir ? Que le plan de fréquence adopté par l'exécutif le 26 juin 1985 sera mis en œuvre. Que les radios non encore reconnues mais ayant vocation à l'être, par leur qualité et leur notoriété, le seront de manière provisoire, mais très vite. Que le décret du 8 septembre 1981 sera revu et les conditions étriquées de reconnaissance seront modifiées. Retenons encore que des radios privées régionales pourront voir le jour au départ de projets existants. Le nouvel exécutif mettra en œuvre la répartition des fréquences disponibles. Un nouveau conseil des radios locales plus efficace avec un vrai pouvoir d'avis, composé de gens réellement concernés, devra être mis en place. Sa première tâche devrait être le réexamen et le tamisage de tous les dossiers rentrés depuis 1982, la présentation pour les projets retenus d'un plan par grande région, en fonction des disponibilités techniques, avec un classement des stations, radio d'agglomération, radio locale, radio de quartier, le partage ou non, et proposition de mariage entre stations là où trop de projets existent. C'est donc une nouvelle étape importante de l'histoire de la FM qui s'ouvre, où chacun devra avoir la place qui lui revient. Le service public, avec ses trois programmes, les radios privées commerciales et de presse, avec la création de deux ou trois networks, les radios locales socioculturelles et commerciales, dans les grandes villes, les radios thématiques, confessionnelles, ethniques, d'expression, d'université. L'espoir de voir le dossier de la FM dépoussiéré est réel.
L'avenir est brossé de main de maître.
Comme un avion sans air.
Suite à l'attribution de sa fréquence par la RTT en juillet 1985, Radio Panique décide d'observer strictement la loi sur les hauteurs d'antenne. On sursoit dès lors aux démarches entreprises avec les autorités de la clinique Saint-Étienne afin de placer notre antenne sur leur toit. Cela d'autant plus qu'en final, ces autorités sont plus que réticentes. On interrompt un temps les émissions pour pouvoir réaménager les locaux. Ce travail ne sera jamais achevé. Il n'y a pas beaucoup d'ardeur pour le mener à bon terme. Et puis surtout, ça discute ferme et dure sur la cohérence de la programmation. Rappelez-vous, en automne 1985, il n'y a guère plus qu'une vingtaine d'heures en direct, et bien plus de la moitié de ces heures sont occupées par des émissions maghrébines et turques. Les émissions turques en particulier causent problème. Elles réclament toujours plus d'heures, car elles ont du succès, mais ne comportent aucune information, étalent une musique commerciale de bas étage et n'utilisent pas la langue française. Dans ce contexte de misère, Radio Panique va prendre des décisions qui vont orienter toute la suite de l'histoire de la station et qui seront des bombes à retardement. On peut avancer que les conditions pour un développement de Radio Panique comme radio à deux vitesses ont été instaurées à ce moment-là. La misère est vraiment mauvaise conseillère. En compulsant les archives de la radio à l'occasion de cette série d'émissions, je suis stupéfait de trouver, dans le procès-verbal d'une réunion du conseil de gestion de l'époque, la phrase suivante.
La programmation se fera dans un premier stade, plus en fonction d'un critère de survie de l'outil qu'en fonction d'un critère de définition de la radio.
Je ne me rappelais pas que cette ligne de la radio, qui sera si vivement critiquée quelques années plus tard, ait été si clairement énoncée. Cette phrase dit sans équivoque que l'on va garder et accueillir des émissions, non pour leur contenu et leur qualité, mais pour occuper la fréquence et pour avoir l'argent des cotisations afin de financer la radio. Sans doute conscient de l'énormité de cette décision, le même conseil de gestion concentre les objectifs spécifiques de la radio sur certaines heures d'émission en les intronisant « heures radio panique ». Cela sous-entend bien que les autres heures ne sont pas totalement des heures radiopaniques. On définit quelles seront les tranches d'heures radiopaniques. 7 à 9 heures, 12 à 14, 17 à 19, minuit à 2 heures. Au moment où cela est défini, ces heures sont vides d'émissions en direct. Le lecteur multicassette diffuse perpétuellement les mêmes musiques éclectiques. En cette fin 1985, surviennent deux nouvelles démissions de membres du conseil de gestion fondateur de Radio Panique, celle de Carlos D'Amata, annoncée depuis un certain temps, et de Dries van der Merch. Dries explique qu'il n'a plus le temps de s'investir. Carlos ajoute à ses griefs antérieurs un nouveau mécontentement. Il ne supporte pas que les équipes populaires se soient affichées co-organisateurs du colloque international. Il considère cela comme une sorte de récupération de Radio Panique par la famille chrétienne.
En fait, d'une part, il y avait, suite à toutes ces négociations pour la création de la radio, ce que moi j'estimais la mainmise d'un parti ou d'une organisation liée à un parti politique bien déterminé sur la radio. Il y avait le fait que ces gens ont trouvé les moyens de donner à la radio un permanent payé, alors que tout le monde était bénévole à l'époque. Et la façon dont ça se gérait n'était pas toujours très claire, dans la mesure où le permanent a d'office un contrôle sur la radio, ou sur n'importe quoi, je veux dire. Si c'est un magasin de chaussures, le permanent aura toujours un contrôle sur les chaussures qui rentrent et qui sortent, que les autres n'ont pas. Il y avait aussi le fait que parfois les choses, alors qu'il y avait beaucoup de problèmes, je veux dire, Radio Panique, c'est aussi une façon de vivre à la radio, c'était toujours la catastrophe au niveau matériel, au niveau argent. Et parfois les choses ne se passaient de façon pas très claire. C'était très sympa, les gens appartenant à ce mouvement trouvaient un peu de l'argent pour faire les soudures quand on était en déficit ou pour acheter un nouveau ampli. Mais ça se passait pas toujours de façon très claire, pas de façon très ouverte. Et moi, ça m'emmerdait, quoi. La radio, c'était pas mon métier, c'était mon plaisir. Et bon, j'avais autre chose à faire que m'emmerder avec des tractations de ce genre.
Comment perçois-tu le fait que la famille chrétienne, la JOC, le MOC, que les familles chrétiennes traditionnelles aident la radio et récupèrent pour, et la récupéraient à son début?
Puisque tu les cites, moi je crois que c'est le propre de cette tendance politique. Ils réclament toujours haut et fort d'être très impliqués dans l'associatif. Je pense que c'est de moins en moins vrai. L'associatif est de plus en plus éclaté, d'autant plus qu'avant c'était un mouvement de, je dirais, idéologique. Maintenant les gens vont dans l'associatif parce que c'est encore un endroit où on trouve du boulot, point à la ligne. Donc c'est pour gagner sa croûte qu'on va dans l'associatif. Les gens, à la rigueur, vont dans l'associatif, d'autres deviennent gendarmes. C'est là où on a du boulot qu'on va chercher, quoi. Donc ces mouvements essayaient de recruter, donc la radio, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, d'autres mouvements politiques ont essayé chacun de créer une radio à leur couleur. C'est vrai que les socialistes, même s'ils avaient des radios d'obédience, n'ont jamais rien fait pour aider ces radios fondamentalement, parce que leur credo était la radio publique. Elle est toujours, donc quand on est au pouvoir et qu'on peut gérer une RTB, on ne va pas vraiment investir dans des petites radios libres avec une audience minime, quoi. Les chrétiens ont toujours eu cette espèce de fanatisme à contrôler la vie associative. Allez, je vais lui dire du mal Marcel. Il devrait se couper les cheveux. Je l'ai vu hier soir, il a ses douilles qui dépassent tous les côtés. Je crois que la question n'est pas Marcel, c'est la question du permanent. C'est vrai que Marcel est un homme d'écrit, n'est pas facilement un homme de parole. Je crois que lui-même l'admet, il a eu beaucoup de résistance au départ à s'exprimer devant un micro. Et il a beaucoup travaillé pour ça, je veux dire. C'est assez admirable, mais fondamentalement, ça reste un homme de l'écrit, je crois. Je crois que le problème était le problème du permanent, du pouvoir d'un permanent quelque part. Je veux dire, à mon travail, c'est pareil. Pour moi, la radio Panique idéale reste quand même une radio diversifiée et de communication. C'est un leurre de croire qu'on ne fait que de l'underground ou qu'on ne fait que des émissions parce qu'il y a beaucoup d'étrangers à Bruxelles. D'ailleurs, c'est un peu partout pareil dans beaucoup de milieux. Que la liberté d'expression, c'est que les gens parlent dans leur langue pendant des heures et des heures avec un public par ailleurs n'est pas du tout calculé. Moi, je pensais qu'il y avait quand même les moyens de mettre pas mal de gens autour de la table. Je préfère moins d'heures d'émission, mais des émissions plus équilibrées et plus diversifiées qu'essayer de remplir 24 heures sur 24. Notre but n'est pas de combattre la RTB ou RTL ou quoi que ce soit, mais bien de trouver quand même une certaine représentation d'une mouvance bruxelloise que je pense existe au niveau social, au niveau artistique, culturel, sans larmoiement, mais sans non plus, comme j'entends parfois, des publicités pour n'importe quoi sous prétexte qu'il faut trouver de l'argent pour acheter du matériel. Pas que la publicité me rebute, mais ça doit être des choses négociées et claires. Or, Radio Panique n'a jamais su dépasser ce genre de problème. Des gens qui font de la pub, mais qui disent qu'ils n'en font pas parce qu'à la rigueur, tu ne comprends pas la langue dans laquelle on fait la pub, qui ne rétribuent pas la radio. Ça veut dire qu'il y a un manque de clarté de contrat à la radio. Moi, ça ne me gêne pas de dire à certains moments plutôt travailler bien à 5 que faire des conneries à 30, quoi.
Fin novembre 1985, l'alliance entre les socio-chrétiens et les libéraux les conduit à diriger le pays aussi bien au niveau du gouvernement national qu'au niveau de la communauté française de Belgique. Philippe Monfils est le nouveau ministre-président de l'exécutif de la communauté. Du côté des radios, le GRIB, et en particulier Pierre Houtmans, président du Conseil des radios libres, triomphe. Les radios d'obédience socialiste, désormais menacées, s'organisent dans la précipitation et créent une nouvelle fédération de radios, la FRE, sous la houlette du XARA. C'est une fédération de circonstances, elle représente peu sur le terrain, mais beaucoup sur le plan institutionnel. Il en sera de même un peu plus tard avec la RAF, qui prétendra représenter les radios d'obédience socio-chrétienne et tâchera de récupérer tous les mécontents. Les temps changent radicalement, la méthode aussi. 6 jours à peine après sa prise en charge du poste de ministre-président de la communauté française, Philippe Monfils reconnaît 162 radios, dont les radios commerciales, et demande au pouvoir national d'attribuer des puissances énormes pour certaines stations privées dénommées radios d'agglomération. Dans un premier temps, Paul Adand, nouveau ministre des PTT, se déclare surprise et avoue sa réticence à accorder des dérogations de puissance. On ne l'a en effet pas accepté pour la Flandre. Un peu plus tôt, 400 radios néerlandophones ont été reconnues avec 100 watts de puissance apparente rayonnée, selon l'arrêté de loi Willox de 1981, toujours en vigueur sur ce point-là.
En ce qui concerne Bruxelles, Philippe Monfils réclame la puissance d'un kilowatt pour Contact, SIS, FM Le Soir, incluant le dimanche Bruxelles Europe, une station de musique classique. Il réclame 500 watts pour Judaïka, Radio 104, instauré tête de liste des radios de l'ALO, normal. Son président Jacques Cazier siège au conseil des radios locales depuis la démission d'Yves Jongen. Ainsi que pour Campus, Microclimat, tête de liste de la FRE, Fréquence 1, en cheville avec la Libre Belgique. Il réclame 160 watts pour Air Libre plus RZAB plus 1180, Radio Hucle Centre, Radio Forêt Nationale, Arc-en-Ciel et Panique. Il réclame 20 watts pour les radios de quartier, Marolle, Kefren, Alma, Flash.
Un deuxième train de reconnaissance, mars 1986, portera le nombre total de radios reconnues à 298.
Comme un avion sans air.
Le décret des reconnaissances de radio de Philippe Monfils en décembre 1985 consacre la victoire des radios commerciales. Cependant, d'un point de vue pragmatique, il satisfait aussi Radio Panique, puisqu'elle émarge dans le lot des élus, ce qui n'était pas du tout donné d'avance, alors que des dizaines d'autres radios restent sur le pavé. Jamais dans toute son histoire jusqu'à aujourd'hui, on ne voudra plus lui attribuer une puissance de 160 watts. Dans un jeu très compliqué où nous n'avons aucun atout, puisque nous refusons toute étiquette de parti politique, nous estimons, à juste titre, que nos efforts et nos démarches sont couronnés de succès. Quand la RTT aura édicté son plan de fréquence, tout devrait marcher comme sur des roulettes. La cause externe de la crise permanente de panique aura disparu. Sa fréquence sera protégée, elle récupérera un public et de nouveaux projets d'émission verront le jour. C'est du moins ce que nous pensons alors. Très vite cependant, on se rend compte qu'il faut continuer à se battre. Radio Panique est le maillon faible de la chaîne des radios à 160 watts. Le deuxième train de reconnaissance concerne encore toute une série de radios bruxelloises et il faudra bien les caser quelque part. Des partages de fréquences seront inévitables. Le PSC en particulier veut introduire de nouvelles radios à forte fréquence, ainsi Télé6, une nouvelle radio formée par des dissidents de SIS. C'est le temps des rumeurs et de la désinformation. On se sent très mal informé par les représentants de l'ALO au Conseil des radios. Dans un premier temps, nous entendons dire que Radio Panique devra partager la fréquence de Fréquence 1, une radio qu'on dit proche de la Libre Belgique. Prétexte, toujours notre réputation d'appartenir quelque part à la famille chrétienne. Nous réagissons très vivement. Non, nous ne sommes pas une radio de PSC, nous ne sommes pas une radio de parti, nous sommes pluralistes, indépendants des partis et des syndicats. Et puis, nous entendons nous conformer au mot d'ordre de l'ALO, perdre le moins de terrain possible pour l'alternative. Nous exigeons donc une fréquence entière en tant que radio d'expression pluraliste et progressiste. Nous sommes toujours bel et bien brouillés durant cette période. On en a plus que marre. Nous prenons l'initiative en mars de nous adresser aux radios bruxelloises reconnues pour trouver un modus vivendi avant l'arrivée du plan de fréquence. Un tel modus vivendi pourrait faire force de loi. FM Le Soir est d'accord, Radio Alma aussi. SIS dit oui si on admet que les fréquences déjà accordées soient remises en question. Trois réponses en tout.
Extrait d'un article de Jacques Cazier dans La Lanterne, le 28 avril 1986.
Pendant plusieurs années, le Conseil des radios locales et indépendantes et les radios se sont trouvés face à un triple blocage. Blocage dû aux partis politiques, incapables de se mettre d'accord sur la signification du décret du 8 septembre 1981. Blocage dû aux groupes financiers, via les radios publicitaires, freinant l'application d'un décret ne leur laissant aucune latitude d'activité publicitaire sur leur radio. Et plus récemment, blocage dû aux groupes de presse, désireux de s'approprier au moins partiellement les nouveaux médias. En décembre 85, éclairci dans le ciel couvert, un accord intervient sous l'impulsion du GRIB et de l'ALO, et est bientôt ratifié par l'exécutif de la communauté française. Enfin, les affaires de radio sont réglées par les hommes de radio. Ce plan de reconnaissance tenait compte, dans l'ordre, de la réalité du terrain, de la qualité intrinsèque des projets de radio, de l'existence de trois types de radio, d'expression, commerciale, de presse, de la nécessité de maintenir le pluralisme au sein des différentes entités de la Belgique francophone. Si l'ALO a continué à participer aux travaux du Conseil, c'est que ses représentants avaient la conviction que, malgré les pressions politiques nombreuses, ce Conseil a travaillé selon les critères énoncés plus haut, et seulement ceux-là qui étaient propres à garantir la place qui leur revient aux radios d'expression. Si en se basant sur le principe du pluralisme, le Conseil a à maintes reprises accordé une reconnaissance à des radios soutenues ouvertement par le PSC, le seul parti à avoir aussi outrageusement joué de son influence, si ce même Conseil a accordé sur les insistances du PSC cette reconnaissance à fréquence 1, en plus de celle accordée lors du premier accord à Radio Panique, qui elle la méritait amplement, il est à noter que sur les 10 fréquences, cela donnait 20% des radios au PSC, alors que celui-ci n'a obtenu qu'un peu plus de 5% des voix à Bruxelles aux dernières élections. Ce qui est inquiétant à Bruxelles, c'est le nombre restreint de fréquences, et plus encore le fait que le PSC n'entend pas voir attribuer à Télé 6 d'autres fréquences que celles des radios air libres alternatives qu'EFREN. Les milieux indépendants des partis politiques sont inquiets. Tout cela pourquoi ? Pour remplacer une radio d'expression par une autre, pas précisément sociale ni chrétienne, purement commerciale et peu ludique. À quel jeu joue donc le PSC ?
Remarquons que, selon cet article, Radio Panique aurait bel et bien été soutenue par le PSC. Nouvel épisode du jeu de ping-pong entre reconnaissance de radio et attribution de fréquence. Le 28 mai 86, la RTT place sur notre fréquence AFN, la radio des forces américaines, avec 1000 watts de puissance. AFN s'est habilement fait reconnaître par la communauté flamande et s'est établie en effet à Everberg. Donc, la RTT elle-même ne respecte pas le fait qu'elle nous a attribué la fréquence 101.8. Tout va être remodelé, changé de fréquence. Ce serait la troisième fois en 6 mois de temps. Ce n'est pas très favorable du côté des auditeurs. Dysfonctionnement ?
Et puis, ça nous coûte cher, les changements de fréquence. Il faut payer un technicien, remplacer le coupleur de l'antenne et le quartz de l'émetteur. Nous publions un communiqué de presse qui sera repris par quelques journaux.
Alors que les premières radios reconnues, comme Radio Panique, attendent depuis 3 ans l'exécution d'un plan de fréquence, nous trouvons très provoquant qu'une attribution de fréquence avec dérogation de puissance soit accordée si aisément à une radio étrangère. 1000 watts pour combien d'auditeurs dans la sous-bande des radios locales? Il n'y a donc pas qu'en matière d'installation des missiles que la souveraineté belge est violée, avec l'accord de son gouvernement.
La Cité, 30 mai 1986. Radio Panique menacée par une radio américaine.
Les animateurs de Radio Panique s'étonnent de la façon dont la RTT procède en la circonstance, car ils n'ont été avertis qu'à la dernière minute et sur un simple coup de fil d'un fonctionnaire de la mesure qui les vise. Ils se souviennent que la RTT leur a accordé une fréquence officielle et qu'il leur a été fortement conseillé de s'y maintenir, malgré le fait que cette fréquence est brouillée par SIS et par Radio Judaïka, station auxquelles la RTT n'a jamais attribué de fréquence. Radio Panique estime, vu ce qui précède, que la RTT devrait lui octroyer une fréquence de travail, une fréquence provisoire afin de pouvoir continuer ses émissions dans de bonnes conditions jusqu'à ce que le plan de fréquence définitif pour Bruxelles soit établi.
Mais au fond, nous savons que nous devrons nous incliner. À nouveau, la lutte du pot de terre contre le pot de fer.
Janvier 1986. Communiqué de presse d'Air Libre accusé d'être de mèche avec les CCC, les cellules communistes combattantes. La Lanterne, 20 janvier 1986.
Le nom de Radio Air Libre a été souvent cité lors de la diffusion d'informations sur les cellules communistes combattantes. Récemment, un quotidien bruxellois a même expliqué que Air Libre soutenait, intentionnellement ou non, Pierre Carrette et les trois autres personnes arrêtées en même temps lors de l'enquête antiterroriste. Un amalgame qui n'est pas du goût d'Air Libre. Dans un communiqué, la station, qui a d'ailleurs été reconnue par l'exécutif communautaire, a précisé qu'elle n'avait rien à voir avec les CCC. Air Libre, qui, je cite, « ne défend pas une idéologie et ne prend pas ses auditeurs pour des imbéciles », affirme qu'elle n'est pas une radio anarchiste, mais précise qu'elle est anarchiste, féministe, pacifiste, écologiste, portugaise, arabe, haïtienne, punk, hard rock, rock, psyché, homosexuelle, pour les prisonniers, ce qui n'empêche pas certains animateurs d'être communistes, socialistes ou chrétiens de gauche, par exemple. Et Radio Air Libre d'ajouter « afin que les auditeurs puissent se faire leur opinion à propos des idées exprimées par les divers acteurs sociaux et politiques, ce sont ceux-ci qui interviennent directement à l'antenne. » En tête de son communiqué, Air Libre rappelait la phrase de Voltaire. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » Des observateurs estiment que dans le cadre des négociations sur le plan de fréquence, on tâche de discréditer Radio Air Libre afin que sa reconnaissance lui soit enlevée au profit d'une radio commerciale.
Qui a vu passer les dirigeants terroristes sur leur petit vélo avec une grosse sonnette?
Aujourd'hui, nous avons dévalisé la Société Générale des Banques, symbole du capitalisme puant, de la finance et des multinationales. Le plus vieux d'entre nous s'est enfui à patin-roulette. La somme de nos âges est égale au numéro de la planque et le produit de nos âges est égal à 72. Vive la révolution prolétarienne.
Qui a vu passer les terrifiants terroristes sur leur petit vélo avec une grosse sonnette?
Nous sommes les cyclistes communistes combattants. Nos petits vélos ont de grosses sonnettes et nous pédalons pour la révolution. Le monde tremblera au diling-diling de nos grosses sonnettes et le prolétariat réuni au sein du peloton saura reconnaître son avant-garde sur nos petits vélos et grosses sonnettes.
Qui a vu passer le terrifiant terroriste sur leur petit vélo avec une grosse sonnette?
Nous serons sourds aux railleries des machos qui, dans leur coupé sport, klaxonnent pour nous effrayer. Nos bidons de ravitaillement sont bourrés de dynamite. Les machos sportifs peuvent toujours venir.
Qui a vu passer les terrifiants terroristes sur leur petit vélo avec une grosse sonnette?
Nous frapperons partout où il le faudra pour que s'écroule le monstre capitaliste. Les armes du peuple sont le vélo et la faucille, la dynamite et l'argent volé.
qui a vu passer les terrifiants terroristes sur leur petit vélo avec une grosse sonnette.
Si tous les petits vélos du monde avaient des grosses sonnettes, il n'y aurait plus d'oppression, il n'y aurait plus de patron. Et le jour se lèverait sur une aube nouvelle où tout le monde serait beau et il n'y aurait plus de machos.
Qui a vu passer les terrifiants terroristes?
Les représentants au Conseil des radios de la Lode, de la Frey et du GRIP établissent pour Bruxelles un plan de 14 fréquences. Radio Panique grogne. On a l'impression de ne pas être entendu et d'être l'objet de magouilles. Je te donne ceci, tu me donnes cela. Voici quelques extraits d'un article que j'écris alors dans la Revue Nouvelle, avril 1986, pages 411 et suivantes.
En dehors du caractère complètement flou des critères pris en compte, ce qui frappe le plus, c'est que ce plan légitime la situation de fait telle qu'elle a été conquise par les plus puissants au sein de la guerre des ondes. La loi légale rejoint la loi de la jungle. Pour ce faire, le nouveau plan pulvérise la notion de radio locale, concept clé du décret de 1981. Il met sur orbite une stricte hiérarchisation des radios. Radio régionale, radio d'agglomération, radio locale et radio de quartier. Il privilégie unilatéralement les radios privées commerciales en fonction de leur appartenance à quelques régies publicitaires et aux groupes de presse les plus structurés. En fait, c'est un pas décisif dans le processus de rationalisation et de concentration qui caractérisait déjà ce secteur. A-t-on trouvé une sorte de paix sociale des radios? On pourrait le croire, puisque, même si les radios de tendance libérale obtiennent partout les premières places, effectivement, toutes les radios de la LO qui existent encore ont également reçu une place. Les radios d'expression semblent en général accepter l'accord conclu, même s'ils consacrent l'impuissance d'appliquer le décret de 1981. On peut comprendre ce pragmatisme. Pendant des années, bien que légalisées, elles ont dû s'épuiser dans le combat pour leur survie. Rendues inaudibles par les radios privées, ne bénéficiant d'aucun revenu important et ou stable, au contraire de ce qui s'est passé pour les télévisions communautaires, la communauté n'a jamais subsidié les radios qu'elle reconnaissait. Elles ont connu une dramatique hémorragie de responsables et d'animateurs, et leur force d'attraction par rapport aux acteurs sociaux et culturels novateurs a fortement diminué. Elles n'ont pas toujours été dans les conditions de dépasser un style amateuriste, qui n'était plus « dans le vent », et de renouveler leur potentiel de créativité radiophonique. Dans l'hypothèse où le projet de M. Monfils va réellement être traduit dans les faits, les radios d'expression peuvent donc se sentir soulagées. David ne combat plus Goliath, David laisse courir Goliath et reste David. En son temps, la commission de l'audiovisuel avait recommandé la reconnaissance de radios privées dans la mesure où une caisse de compensation serait constituée. Une partie des recettes en provenance de la publicité serait reversée aux radios d'expression. Qu'en est-il de cette recommandation? Il n'y aura pas de miracle. Si une partie au moins de l'opinion publique n'en fait pas un problème, et si des groupes de pression n'imposent pas des solutions institutionnelles, les radios d'expression pourront très difficilement se développer. Plus tard, qu'on ne se morde pas les doigts si jamais ces petits morceaux de liberté devaient disparaître, au moment où on se sera rendu compte de leur utilité et de leur enjeu.
Juin 1986 est à nouveau un mois important dans l'histoire des radios. On est proche d'un accord, mais le PSC veut introduire une radio d'agglomération qu'elle parraine, et cela entraîne un désaccord important avec son partenaire gouvernemental, le PRL. Puis la RTBF entre dans le jeu, commençant à utiliser des fréquences au-delà de 100 MHz, ce qui perturbe totalement le plan construit par le Conseil des radios et les experts de Philippe Monfils. Finalement, ça négocie et tout cela se tasse. Enfin, le 12 juin 1986, arrive le nouveau décret sur l'audiovisuel adopté par l'exécutif de la communauté française. Reconnaissance définitive de 293 radios.
Pour ce qui concerne Bruxelles, les radios suivantes sont reconnues. Par ordre alphabétique, Air Libre, Alma, Al-Watan, Arc-en-Ciel, Bruxelles Europe, 104, Campus, Cassandra, Cœur, Contact, Contact Plus, Cristal, Culture 3, 10, Flash, FM Capital, FM Le Soir, Forêt Nationale, Fréquence 1, Fréquence L, ITFM, Judaïka, Kefren, Maranatha, Marol, Mehdi Inter, Mehdi 1, 1180, Microclimat, Panique, SIS, Studio Phoenix, Sunset, Télé 6, Hucle Centre, Vainqueur, La Voix de l'Islam, Wafa, Alternatives.
Reste bien sûr à attendre la confirmation par le gouvernement national et l'attribution officielle des fréquences demandées. En attendant, les représentants au Conseil des radios de l'ALO, de la FRE et du GRIB ont établi pour Bruxelles un plan de 14 fréquences, le maximum possible dans la bande 100-108 MHz, ce qui suppose un regroupement entre plusieurs radios, notamment les diverses radios maghrébines et les trois radios parrainées par le PSC, fréquence 1, fréquence L, Télé 6. Les radios concernées ne sont pas d'accord. Le flou demeure donc. Alors qu'à Bruxelles la demande excède, et de loin, l'offre possible, le cabinet Monfils reconnaît fin juin encore 5 autres radios bruxelloises. Freedom, Activité, Cinquantenaire, KISS et Studio 2000. Extrait du journal Le Soir, 30 juillet 1986.
Mardi soir, le champagne était débouché chez Philippe Monfils, le président de l'exécutif de la communauté française. Celui-ci venait en effet de réussir l'accouchement difficile de plusieurs projets très délicats qui dessineront le paysage audiovisuel en Belgique francophone pour les années à venir. Un accouchement au forceps, approuvé par le ministre PSC M. Poulet, et que l'on voudrait programmer avant les grandes vacances, comme si la coalition chrétienne libérale craignait les remous de la rentrée en septembre. Le décret sur l'audiovisuel, ainsi que celui qui crée un haut comité de l'information audiovisuelle, ont été définitivement approuvés et sont envoyés en commission du Conseil de la communauté française. Aujourd'hui, on pourrait d'autre part assister à la conclusion de l'accord entre TVI, la télévision privée issue de RTL, et la communauté française.
Ce décret subira quelques nettoyages avant d'être approuvé l'année suivante par le Conseil de la communauté française, 11 juillet 1987. Notamment l'idée d'un haut comité de l'information, vivement critiqué par la profession, sera retirée. On peut désormais dire que le fameux décret Valmy-Féo de 1981 appartient définitivement au passé. Épinglons quelques-unes des nouvelles mesures en ce qui concerne les radios. La publicité commerciale n'est plus interdite. Il est admis que les radios privées peuvent s'adresser à plusieurs arrondissements contigus. Le principe de l'existence de radios régionales est donc reconnu. Promotion culturelle, éducation permanente et animation locale ne sont plus prioritaires. S'ajoutent l'information, le divertissement, le service du public et le souci de mise en valeur du patrimoine culturel et des artistes et créateurs de la communauté. Le décret autorise les réseaux de radio à condition qu'ils ne comptent pas plus de 5 radios par réseau. L'ancien conseil des radios locales est aboli et remplacé par un groupe de travail radio privé au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'exécutif prononce les reconnaissances de radio pour 4 ans sur base d'avis de ce conseil. Ce conseil comporte une trentaine de membres et contrairement à ce qui avait été promis, il sera autant, sinon davantage, politisé que ses prédécesseurs. La Belgique est la Belgique.
Comme un avion sans air.
Été 1986. Nouvelle négociation au Conseil des radios. Comment caser toutes les radios bruxelloises reconnues alors qu'il y a si peu de fréquences disponibles? Nous apprenons par la rumeur que le représentant de l'ALO, Jacques Cazier, serait prêt à accepter que Radio Panique soit réduite au statut de radio de quartier, c'est-à-dire une radio de 20 watts, susceptible d'être entendue 1 ou 2 kilomètres à la ronde. Cela pour attribuer une place à une radio parrainée par le PSC. Nous interpellons très vivement Jacques Cazier et nous le menaçons de poser la question de confiance à son sujet à l'ALO, ce qui mettrait en péril l'accord péniblement acquis entre les trois fédérations de radio. Jacques Cazier nous donne ses apaisements. Mais en novembre, un vent favorable nous fait savoir que l'ultime proposition de plan de fréquence livrée par le Conseil des radios à l'exécutif limite effectivement Radio Panique à une puissance de 20 watts. Nous interpellons à nouveau avec colère Jacques Cazier et Jean-Michel Lauré, son comparse au Conseil. Réponse: il s'agirait d'une erreur de dactylographie. Le secrétaire du conseil, Claude Mertens, alerté par Jacques Cazier, le certifie par lettre. L'erreur est rectifiée. Jacques Cazier nous écrit alors une lettre sulfureuse. Il ne supporte pas que nous l'ayons soupçonné d'un double langage, à tort ou à raison sur le point évoqué. Jacques Cazier n'a pas non plus apprécié notre constatation que, sans concertation avec les autres radios de l'ALO, il est décidé de rembourser une bonne partie de ses avances sur le subside accordé par le précédent ministre pour couvrir les droits d'auteur réclamés par la SAMAM. La confiance est définitivement rompue entre Jacques Cazier et Radio Panique. À cette époque, les nerfs sont tellement à vif et la tension si extrême que nous ne pouvons croire qu'il y ait simplement eu une erreur de transcription du secrétaire du Conseil, Pierre Mertens, comme on nous l'affirme. Aurait-on vraiment rectifié si nous n'étions pas intervenus? À ce moment, nous ne le croyons pas. Parano? Je ne le pense pas. Notre impression générale est que nous constituons aux yeux du Conseil, mais aussi aux yeux de l'ALO, le maillon faible de cette fédération à Bruxelles. Les intérêts de Radio 104 et de Radio Air Libre restent supérieurs et protégés.
Le cadeau de Noël 86 sera l'annonce de l'exécution prochaine d'un plan de fréquence sur la bande FM. Radio Panique disposera d'une fréquence 160 watts, utile pour être écoutable sur l'ensemble de Bruxelles, la fréquence 105.4 MHz. Est-ce le début de la fin de la préhistoire de Radio Panique? Quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, une heureuse année 87.
Décembre 1986. La RTT édite enfin son nouveau plan de fréquence. Première constatation, seuls 180 sur les 298 radios reconnues par la communauté française ont reçu une fréquence. Sur ces 298 radios, 224 radios ont rendu à temps leur dossier. Deuxième constatation, chaque radio doit émettre avec 100 watts. L'arrêté Willox de 1981 est donc toujours de vigueur. Les dérogations réclamées par la communauté pour les grandes radios commerciales viendront plus tard. Troisième constatation, des dizaines de radios de quartier, 20 watts de puissance, doivent encore recevoir une fréquence.
Qu'est-ce que cela donne pour Bruxelles? Télé 6, 100.1. Judaïka, 101.1. 104, 101.4. Contact, 102.2. Microclimat, 103.7. SIS, 104. Fréquence 1 et fréquence L, 104.3. FM Le Soir et Bruxelles Europe, 104.7. Panique, 105.4. Forêt Nationale, Cristal et Arc-en-Ciel, 106.1. Radio Arabe, 106.8. Campus, 107.2. Air Libre et Alternatives, 107.6. À Bruxelles, il reste encore 13 radios reconnues à caser. Studio Phoenix, Flash, FM Capital, Cinquantenaire, Vainqueur, 10, 1180, Marol, Maranatha, Cœur, Alma, Sunset et Freedom.
Finalement, on peut se féliciter du succès de nos multiples interventions à temps et contre-temps et de notre lobbying, si modeste ait-il été. Nous obtenons une fréquence de 100 watts sans partage à ce moment. Peu parmi les 80 radios existant 2 ans auparavant à Bruxelles peuvent en dire autant. On commencera à émettre sur 105.4 MHz le lundi 9 février 1987 à 14h précises et jusqu'à ce jour, nous n'en bougerons plus.
Le 1er février 1987, suite à un accord mutuel, la plupart des radios s'installent sur leur nouvelle fréquence. À Bruxelles, certains de ceux qui n'ont pas reçu de fréquence continuent à émettre, fatalement donc sur des fréquences qu'occupent maintenant les radios devenues légales. Il y a donc persistance d'une situation de désordre et de brouillage. Pierre Houtmans, président du Conseil des radios locales, se fâche. Il écrit aux radios que celles qui n'ont pas encore de fréquence doivent immédiatement cesser d'émettre. Le CRL leur propose des solutions de partage. Il indique pour chacune des radios en rade un ou des partenaires possibles. C'est ainsi qu'il désigne Radio Panique comme partenaire possible pour Radio Marolles et Radio Alma. Ces deux radios expriment haut et fort leur mécontentement.
Extrait de Le Marolien rénové, février 1987, page de couverture.
Nous voulons continuer à vivre et nous nous battrons jusqu'à la fin. Radio Marolles est la voix du quart monde bruxellois que l'on veut faire taire, alors que des radios plus jeunes que Radio Marolles, plus de 7 années d'existence, reçoivent toutes les autorisations souhaitables parce qu'elles bénéficient de moyens financiers et publicitaires. Radio Marolles souhaite une puissance équivalente aux stations voisines, ainsi que la possibilité d'émettre 7 jours sur 7.
Radio Alma, elle, s'installe carrément sur notre fréquence, sans nous prévenir, et émet toute la journée. Nous portons plainte et elle doit cesser d'émettre. Elle prétend au conseil des radios locales qu'il y a un accord entre nous, ce qui est faux. Radio Alma est dominée par un groupe d'origine espagnole relayé par le PRL. On veut une radio-entreprise avec de la publicité. L'ALO, le 11 février 87, déclare que des partages ne sont possibles qu'entre radios du même type sur base de leur accord. Radio Alma n'est pas de l'ALO. Son partage de fréquence avec Panique, qui ne le désire pas, est à refuser.
Bruxelles, le 10/2/87. Monsieur le procureur du roi, près le parquet de Bruxelles, palais de justice, extension, rue 4 bras 13, 1000 Bruxelles. Monsieur le procureur du roi, nous avons l'honneur de vous demander d'intervenir pour des faits concernant le brouillage de notre station de radio. Notre radio a été reconnue par l'exécutif de la communauté française en date du 26/7/83. Reconnaissance renouvelée pour 2 ans par l'actuel exécutif, à la date du 27/12/85. Le plan de fréquence en voie d'application nous attribue la fréquence 105.4. Sous l'approbation tacite des services compétents de la RTT, tout comme les autres stations auxquelles une fréquence a été attribuée, nous occupons d'ores et déjà notre nouvelle fréquence. Après vérification sur le terrain, nous devons constater que cette fréquence de 105.4 ainsi que sa zone de protection ne sont pas propres. Elles sont brouillées par plusieurs émetteurs. Nous avons pu repérer Studio 2000, Radio Alma, Radio Flash et Radio Cinquantenaire. Nous leur avions pourtant demandé téléphoniquement de bien vouloir dégager la fréquence qui nous a été attribuée. Nous n'avons rien contre l'existence de ces radios. Mais c'est pour nous une situation impossible d'être rendue inaudible par des stations qui n'ont pas l'autorisation d'émettre sur notre fréquence ou dans sa zone de protection. Nous voulons simplement pouvoir effectuer notre travail dans les conditions normales que nous sommes en droit d'attendre. C'est pourquoi nous avons l'honneur de déposer plainte et de vous demander d'intervenir. Nous vous prions de croire, monsieur le procureur du roi, à l'assurance de notre considération la plus distinguée. Marcel Auflair, administrateur de l'ASBL Radio Panique.
Extrait du journal de bord de Radio Panique. Attention, les auditeurs ont des oreilles.
28 avril 87, le permanent.
11h45, la RTT a fait arrêter Radio Flash. Radio Panique passe à l'intérieur de la ville, Bruxelles, Ixelles et plus loin même. Enfin.
30 avril 87, courant d'air.
Attention, les auditeurs ont des oreilles. Attention, une radio peut en cacher une autre.
2 mai 87, courant d'air.
Faisons le point. Radio Panique passe impeccablement sur une bonne partie de l'agglomération. Malheureusement, elle reste sujette à divers brouillages encore. Le plus important est causé par Stats Radio Hall, qui, émettant avec trop de puissance sur 105.6, nous brouille dans le sud de l'agglomération, par exemple aux environs de la gare du Midi, dans les Marolles, à Forêt, Uccle, Anderlecht, et sur une partie non négligeable de Berkem, Molenbeek, Ixelles, Walluwe et Watermael. Comme actuellement il est prouvé que non seulement nous avons des auditeurs, mais que surtout ils apprécient Radio Panique, peut-être faudrait-il régulièrement leur demander sur antenne de nous aider à régler le problème en se plaignant à Stats Radio Hall et au Service National de Contrôle du Spectre. Les auditeurs seraient également invités à transmettre toutes leurs constatations concernant d'éventuels brouillages. Les animateurs qui recevraient des informations les transcriraient dans le livre de bord.
3 mai 87, inconnu anonyme.
On passe 4 sur 5 à Berkem et 5 sur 5 à l'Atomium, à la Basilique et à Vilvoorde.
4 mai 87, la voie hellénique.
Brouillage à Anderlecht, à l'hippodrome de Sterrebeek et à XL.
10 mai 87, inconnu anonyme.
Radio Panique est brouillée par la fréquence ARA près de la Bourse.
C'était, vers le premier plan de fréquence, Radio Panique devient une radio à deux vitesses. Sixième chapitre de la série « Comme un avion sans ailes, l'histoire de Radio Panique ». Première partie, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, la sortie du tunnel pour Radio Panique.